Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Restez avec nous pour cette nouvelle émission Éclairage consacrée à la fin des journaux. La fin des journaux, sans point d'interrogation, voilà un titre provocateur et pourtant. Il y a un peu plus d'un an, une commission du Sénat remettait un rapport intitulé « Presse quotidienne d'information chronique d'une mort annoncée ». Quelques mois auparavant, c'était au tour de Marc Tessier de remettre sa copie sur la presse au défi du numérique. Nous étions en février 2007 et plus récemment, au mois de septembre 2008, un autre rapport sur le même thème était rédigé à la demande du gouvernement par Madame Danielle Gazi. Toutes ces initiatives furent couronnées en quelque sorte par les États généraux de la presse organisés à la fin de l'année 2008 et qui planchèrent sur quatre sujets distincts. Le métier de journaliste tout d'abord, le défi posé par le numérique, mais aussi les aspects industriels de la presse et enfin les rapports de la presse et de la société. Qu'on se le dise, la presse française, la presse quotidienne nationale et régionale est en crise, crise structurelle, crise conjoncturelle, c'est ce que nous allons voir au cours de cette émission. Une émission qui saura aussi aller au-delà de nos frontières. Cette crise n'est pas franco-française, puisque chaque semaine voit son lot de périodiques américains, espagnols, anglais, au pire disparaître, au mieux tirer une sonnette d'alarme sur la baisse des revenus publicitaires. Alors, mutation, révolution ou chaos dans le monde des médias? C'est la question que nous allons aborder avec Bernard Poulet. Bernard Poulet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Vous êtes journaliste, écrivain. Vous venez de publier aux éditions Gallimard, dans la collection Le Débat, un livre au titre provocateur, La fin des journaux, sans point d'interrogation, et l'avenir de l'information. C'est un sujet que vous connaissez assez bien, on peut le dire. Vous êtes rédacteur en chef de l'Expansion, l'Expansion qui, ce mois-ci, fait un numéro spécial sur le classement des grandes écoles. Alors, je vais directement dans le sujet qui est un sujet très très vaste, qui est un sujet qui a été bouleversé par l'arrivée du numérique. C'est un sujet, la fin des journaux, qui est un sujet dont on ne parle pas en France ou peu en France. C'est même, d'après vous, un sujet tabou. Alors qu'aux États-Unis, on en parle, j'allais dire, de manière très facile.
Oui, en France, on parle beaucoup de la crise des journaux. On en parle depuis 30 ans, on pourrait dire. On ne parle pas du problème, du changement qui s'est produit ces dernières années, depuis le tournant du siècle à peu près, d'une modification du modèle économique qui entraîne la question de savoir si les journaux, dans leur forme actuelle, et la production d'informations telle qu'elle a lieu actuellement vont pouvoir continuer. Ce débat, alors mon livre est effectivement au départ parti de cette préoccupation que je n'ai pas vue reflétée ou très peu dans le débat français, y compris les états généraux de la presse auxquels vous avez fait allusion, se sont contentés, me semble-t-il, de porter quelques rustines sur un mal qui, lui, nécessite plutôt des opérations que des petits pansements. Et on a apporté un peu d'argent en pensant que c'était une mauvaise passe, une mauvaise période, et que ensuite les choses reprendraient, une fois probablement que la crise économique serait passée, les choses reprendraient leur cours. Ce n'est pas du tout le débat, comme vous l'évoquez, ce n'est pas du tout la manière dont le débat est posé dans les pays anglo-saxons, en particulier aux États-Unis, où la presse était la plus puissante et la plus riche du monde. Il faut penser quand même que les journaux américains pouvaient rapporter 20 à 25% de bénéfices, disons pour le dire prosaïquement, à l'entreprise et à leurs actionnaires quand ils avaient des actionnaires, à une période où déjà les journaux français ne gagnaient pratiquement rien quand ils ne perdaient pas déjà de l'argent. Et c'est ces journaux américains qui se posent la question, est-ce que nous allons survivre? Et d'ailleurs, ils se la posent concrètement parce qu'un certain nombre d'entre eux ont déjà fermé des journaux qui n'étaient pas des petits journaux, même si parfois on ne les connaît pas, des journaux qui pouvaient vendre 200, 250 000, 300 000 exemplaires tous les jours des quotidiens. Il y a aussi des magazines qui ont été atteints. Personne n'est indemne. Ce problème qui a frappé brutalement la presse américaine aux États-Unis, les choses se passent souvent plus brutalement et nous n'y échapperons absolument pas.
Alors, vous utilisez des termes quand même forts. Vous parlez de révolution, nous sommes d'accord, la révolution du numérique. Mais, j'allais dire, on vous taxerait facilement de pessimisme. Vous prenez l'exemple du personnage de Cassandre. Cassandre, qui dans la mythologie grecque, annonçait le pire devant nous. Est-ce que vous ne seriez pas trop pessimiste sur cette fin des journaux, la fin des journaux sans point d'interrogation ?
D'abord, Cassandre, je fais allusion à Cassandre parce que Cassandre n'avait pas tort. Simplement, les Troyens ne voulaient pas le savoir, donc ils ne l'ont pas su. Troie a disparu et, rétrospectivement, Cassandre est devenu un mythe. Du moins, l'histoire de Cassandre illustre un mythe. Et chez nous, ce n'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme. Il faut simplement essayer de comprendre ce qui se passe. L'optimisme, c'est de se dire, nous sommes dans une période révolutionnaire, nous sommes dans une période de chaos, tout va changer. Est-ce qu'on peut en tirer profit pour rebondir et faire autrement des choses qui nous paraissent essentielles, c'est-à-dire notamment fournir une information de qualité démocratique à une société qui, pour qu'elle reste démocratique elle-même, cette société, et non pas attendre que tout s'écroule et ensuite pleurer sur les malheurs que nous n'avons pas su prévenir.
Alors, avant peut-être de voir comment vous envisagez l'avenir, comment vous envisagez les solutions qui pourraient résoudre cette crise et poser au fond les questions et apporter des réponses à ces questions qui n'ont pas été posées aux états généraux de la presse, peut-être définir la crise pour nos auditeurs. Comment se caractérise-t-elle cette crise ? Votre premier chapitre est là encore un terme très fort. Peut-être est-il temps de paniquer, c'est qu'on sort d'un modèle qui est, ma foi, un modèle complètement classique sur lequel on vit depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui est un modèle publicitaire. Et nous sortons de ce modèle publicitaire unique.
Oui, les journaux, l'essentiel des journaux, pas la totalité, certains s'en sont émancipés, Le Canard Enchaîné, Charlie Hebdo en France et un certain nombre d'autres journaux, mais ce sont des exceptions qui, d'une certaine manière, confirment la règle. Le modèle de la grande presse est fondé largement sur la publicité depuis ses origines, depuis le 19e siècle. Lorsque les journaux ont pu devenir très peu chers, ils sont devenus des journaux de masse, vendant plusieurs millions d'exemplaires à un moment donné, assez rapidement, grâce à la publicité, grâce aux annonces, grâce à la réclame, comme on disait avant, qui a permis de créer une économie où l'acte d'achat ne suffisait pas pour faire vivre l'organe de presse et la production d'informations à l'intérieur de cet organe de presse. Ça a duré jusqu'au tournant du siècle, donc, et c'est probablement l'arrivée du numérique en général, dont la forme la plus spectaculaire est Internet, mais ça n'est pas la seule, qui a provoqué cette révolution. La révolution du numérique est une révolution qui, comme toute révolution, a des effets révolutionnaires. Pardonnez-moi cette tautologie. Et simplement, il faut bien s'en rendre compte. On est devant un phénomène assez extraordinaire. On a une révolution qui se déroule, mais on dit non, il n'y a pas de révolution. Mais on parle quand même de la révolution Internet. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Alors, ne parlons pas de révolution Internet s'il n'y a pas de révolution. Si, en réalité, il y a une révolution. Et le modèle économique qui a fonctionné pendant deux siècles, ce modèle économique ne fonctionne plus. Non pas qu'Internet et les différents supports digitaux pompent la totalité des budgets publicitaires, mais ils en pompent suffisamment pour que le modèle économique de production d'informations traditionnelles ne puisse plus fonctionner. Je ne l'ai même pas inventé, quelques personnes l'ont dit en France. L'actuel directeur du Monde a fait un éditorial il y a un peu plus d'un an, un an et demi, en reprenant exactement cette logique et en disant que le modèle économique sur lequel le Monde fonctionnait depuis son origine, depuis l'après-guerre, depuis 1945, ce modèle économique ne marchait plus. Et il donnait des chiffres tout à fait pertinents à l'époque, que ça a provoqué un mini-scandale dans le milieu des éditeurs de presse et on n'en a plus entendu parler. Il avait fait Cassandre et on lui a dit « tais-toi, c'est des choses qu'il ne faut pas dire ». Et c'est un déni de réalité qui est très dangereux. Mais ce modèle économique est cassé. Alors, l'autre chose, c'est que nous avons une tendance générale. Il y a une tendance générale que j'analyse à la perte d'intérêt, disons, des jeunes générations pour les journaux d'information. Je parle toujours des journaux d'information. Je ne parle pas simplement des choses imprimées, parce que la chose imprimée, vous avez des journaux People, des choses comme ça, qui seront affectés par la révolution numérique. Mais à la limite, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est les journaux qui produisent de l'information. Or, ces journaux intéressent beaucoup moins les jeunes générations, non pas parce qu'ils sont plus bêtes, mais parce qu'ils ont d'autres centres d'intérêt, que le rapport à la lecture est quelque chose qui se transforme. J'essaie de l'analyser. Je pense que c'est un travail qui, évidemment, mérite d'être encore poursuivi, mais il y a une différenciation dans le rapport à la lecture traditionnelle. Ce sont des choses lourdes, longues, et la crise provoquée par Internet, la révolution provoquée par Internet en siphonnant une partie des budgets publicitaires, celle-ci est venue accélérer cette tendance qui aurait pu être une tendance lente dont on sentait les effets, notamment dans la presse française qui ne cesse de perdre des lecteurs et qui était déjà malade avant cette crise. Mais maintenant, le choc provoqué par ce siphonnage de la publicité met en cause la possibilité même de produire de l'information comme on la produisait. Donc c'est ça le phénomène structurel massif qui fait que nous changeons complètement de modèle. Ce phénomène est, je le répète, structurel. C'est-à-dire que ça n'est pas conjoncturel. C'est pas parce qu'il y a une baisse des marchés publicitaires, des budgets, etc. et que ceci pourra se rattraper ou se réorganiser. Non, non. C'est structurel. Et quelles que soient les faiblesses d'Internet, qui, on pourra peut-être y revenir, est encore, à mon avis, dans une période lui aussi de chaos et de composition, je ne dirais pas recomposition, il n'y en a pas, mais de composition avec des hésitations, des choses qui vont disparaître, etc. Un monde nouveau est né, et ce monde nouveau, il ne disparaîtra pas. Et il met en cause la survie même du monde ancien. Beaucoup de gens disent « la radio n'a pas tué la presse, la télévision n'a pas tué la presse, la télévision n'a pas tué la radio ». Certes, mais regardons les chiffres. Les journaux, prenons simplement en France, les journaux français vendaient 1 million, 1,5 million d'exemplaires. Ils étaient très nombreux dans l'après-guerre. Ils ont pour la plupart d'entre eux disparu. Et ceux qui ont les plus grosses diffusions aujourd'hui, en dehors de Ouest France, qui reste encore assez important, qui est un cas particulier sur lequel on pourrait s'étendre, mais ce n'est peut-être pas notre propos, ce qu'on appelle les grands journaux vendent 350 000 exemplaires, dont la totalité n'est d'ailleurs pas payée par des lecteurs. Donc on a déjà changé le monde à ce moment-là. Il y avait un phénomène tendanciellement, ce que j'évoquais, long de désaffection à l'égard des journaux, qui s'est accéléré avec la désaffection des jeunes générations pour la lecture, et qui tout à coup est frappé brutalement de quelque chose qui le remet en cause, qui est cette disparition. Il suffit que les journaux perdent 10 à 15% d'un budget publicitaire pour ne plus pouvoir fonctionner comme ils fonctionnaient précédemment et être en danger même de mort.
Donc, il y a un problème, au fond, d'adaptation, de mutation. Est-ce qu'en France, on a l'impression qu'il y a un certain conservatisme face au changement ? On parle beaucoup du statut du journaliste. Ça a été un des sujets qui a été abordé à l'occasion des États généraux de la presse. Pour, au fond, que le journaliste ne serve plus non plus un journal ou un magazine, mais une marque, et que son contenu, qu'il soit destiné au web ou bien à la presse imprimée, pour ce changement de statut, ça serait le but de cette loi que de changer ce statut dans ce sens. Est-ce que ça ne serait pas un moyen, donc, de cette idée de marque, de pallier cette insuffisance et de renverser ce conservatisme ?
Oui, vous avez raison, conservatisme, il y a, c'est indéniable, c'est un peu normal. En même temps, quand on vous dit « vous risquez de mourir », vous dites « non, c'est pas vrai ». On est quand même, le déni est une force vitale, en l'occurrence, une illusion de force vitale, plutôt. Lorsqu'on vous dit « vous ne ferez plus votre métier du tout comme vous l'avez appris », quelle que soit la personne et son métier, c'est quelque chose de très, au minimum, de très dérangeant. Néanmoins, c'est d'autant plus dérangeant et beaucoup d'autant plus perturbant que, il faut être clair, il n'y a pas de véritable modèle économique de production d'informations de qualité de masse. Je prends tous ces mots ensemble et j'insiste beaucoup. Production d'informations de qualité de masse, c'est-à-dire cette bonne information qui coûte cher à produire, contrairement à ce qu'une certaine idéologie ambiante actuellement voudrait nous faire croire que le gratuit remplacera tout ça. Cette production de masse, c'est-à-dire touchant un large auditoire et non pas réservé à une petite élite qui, par exemple, pourrait payer, c'est le cas de l'information financière déjà, et je crois que c'est intéressant d'y revenir. C'est un exemple d'information, certes de qualité, mais certainement pas de masse, et même réservé à quelques happy few qui sont capables de payer, pardon, de prix happy few sur Canal Academy, quelques privilégiés, pourrions-nous dire tout simplement en français, qui donc vont payer cette information. Et les conditions économiques de la production d'informations de qualité de masse ont été, comme je l'ai dit, détruites et on ne les a pas reconstituées. Vous pouvez aujourd'hui avoir un journaliste polyvalent qui va faire sous une marque tout, et ça existe déjà, un groupe comme Next Radio qui...
À la veille,
et à plusieurs, à la fois radio, une petite chaîne de télévision économique, des journaux, essayent de faire cela, mais on doit remarquer que c'est au détriment quand même, je ne dis pas que ce qui est fait est nul, mais c'est au détriment d'un approfondissement, disons sinon d'une qualité, d'un approfondissement nécessaire de l'information, parce que tout simplement, ça coûte très cher. J'ai un exemple très classique et brutal. Si on veut couvrir ce qui se passe à Bagdad, c'est-à-dire ce qui se passait ces dernières années à Bagdad et encore ce qui se passe aujourd'hui. Quand on regarde l'exemple du New York Times, le New York Times a dépensé, le bureau du New York Times à Bagdad, coûtait aussi cher qu'un nouveau média, qui est un blog d'information, celui qui a le plus de succès aux États-Unis, qui s'appelle Huffington Post. Ce blog d'information, qui est en réalité de commentaires, dépense à un budget équivalent à celui du seul bureau du New York Times à Bagdad. Alors même si on admet que le bureau était peut-être dépensé trop d'argent, on voit quand même que la production d'informations coûte très très cher. Pour savoir ce qui se passe à Bagdad, ça coûte très très cher. Commenter ce que nous pensons les uns et les autres, etc., ça coûte pas très cher. Mais la production d'informations, on peut le rapporter à la nécessité dans un journal ou une radio ou une télévision d'avoir des bons experts. Un bon expert, ça coûte assez cher parce qu'il faut qu'il ait une formation, donc une expertise par définition. Et il faut aussi probablement qu'il ait pas mal de temps pour faire valoir son expertise. C'est une chose qu'on connaît. Par exemple, ont disparu des médias, probablement parce qu'il y avait moins de demandes, mais ont disparu les gens qui suivaient régulièrement l'Assemblée nationale et l'ensemble des textes. Mais il y a une partie, la décroissance de l'importance, et je dis ça gentiment, en euphémisme, du Parlement français dans la vie politique, a sûrement à voir aussi par l'absence de couverture de ce qui s'y passe, ce qui s'y dit, de ce qui s'y fait en commission, parce qu'il n'y a plus de journalistes à qui on accorde le temps de faire ça, la place dans les journaux, et qui ont l'expertise pour le faire de manière intelligente.
Alors, quelles sont précisément, Bernard Poulet, les causes de cet affaiblissement du contenu? C'est ce que je vous propose de voir après cette première pause. Nous nous retrouvons dans un instant. Restez à l'écoute de Canal Académie.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard-Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission « Au fil des pages ». Le Bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademie.com.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à la fin des journaux. Je reçois Bernard Poulet, journaliste, rédacteur en chef de l'Expansion et auteur du livre donc La fin des journaux et l'avenir de l'information, un ouvrage paru dans la collection Le Débat chez Gallimard. Alors, avant de laisser nos auditeurs, vous évoquiez Bernard Poulet le contenu et cette baisse de la qualité du contenu. D'où vient au fond cet affaiblissement? Est-ce que ce n'est pas un signe de nos sociétés que le contenu, au fond, baisse en qualité? Nous réagissons beaucoup dans l'émotion, la presse people a énormément de succès. Est-ce que ce n'est pas un changement tout simplement de société? Est-ce qu'on ne passe pas dans une nouvelle société du tout émotion à travers l'élection d'Obama? On était en pure émotion, la question du préservatif et du pape, nous étions en pure émotion, etc., etc.
Oui, vous avez raison. Il y a une transformation du rapport des citoyens à la chose publique, donc à l'information. Il y a d'abord, je commencerai par balayer devant ma propre porte, il y a probablement aussi un certain nombre d'erreurs commises par les journalistes eux-mêmes, qui soit ont, ces dernières années, pour certains d'entre eux, considérer qu'ils devaient se comporter plus ou moins comme des hommes politiques ou des acteurs qui doivent faire changer la scène politique. Je ne pense pas que ce soit le rôle des journalistes. Et je pense que les lecteurs, citoyens en général, n'apprécient pas énormément ça. Ils aiment bien qu'un journaliste dise ce qu'il pense, l'assume, mais qu'il ne cherche pas à faire passer, et surtout en contrebande, à ses lecteurs, auditeurs, des opinions que les citoyens pensent être assez grands pour former eux-mêmes. Donc il y a aussi probablement très souvent une déperdition de qualité, probablement liée déjà aux premiers symptômes de la crise économique affectant les médias, C'est-à-dire que à la fois la compétence, la formation des journalistes est importante, et pas seulement dans les écoles de journalisme, le temps qu'on consacre, qu'on leur laisse pour faire leur travail, tout ça c'est un peu dégradé. L'exigence même des journalistes par rapport à leur propre travail peut-être n'est pas à la hauteur aujourd'hui d'une société où les gens sont quand même formés, ont de l'expertise. Et d'ailleurs, au passage, les discours sur la fin des experts me laissent toujours, disons, rêveur, pour être gentil, parce que l'expertise, c'est justement la seule valeur ajoutée vraiment importante, avec un certain talent, que les journalistes peuvent apporter, que les citoyens sont en droit d'attendre de la part des journalistes. Alors ça, c'est balayons devant la porte des journalistes, il y a pas mal de choses à balayer. Par ailleurs, vous avez tout à fait raison, on peut balayer aussi devant la porte des citoyens, les journalistes sont des citoyens aussi, qui sont peut-être moins intéressés, là c'est un vaste problème, ils sont sûrement moins intéressés par toute une série d'informations de la chose publique, de la vie publique. J'évoquais précédemment les débats parlementaires, s'ils ont disparu, c'est aussi parce que finalement les citoyens ne sont peut-être pas très intéressés par les débats parlementaires. Alors ça pose la question de la vie parlementaire, ça pose la question du rapport des citoyens aux politiques. Mais on constate aussi, alors qu'on n'arrête pas de parler de mondialisation, d'un monde qui rétrécit, d'un univers où finalement tout serait un peu la même chose et on connaîtrait tout, peut-être on s'aperçoit que l'appétence pour l'information internationale est réduite aux effets spectaculaires, aux événements spectaculaires de cette information internationale et pas vraiment au fond des choses. Prenons un exemple récent, il y a des touristes qui sont enlevés par des pirates au large de la Somalie. Qui peut expliquer ce qu'est le Somaliland? Qu'est-ce qui se passe en Somalie? Est-ce que des troupes éthiopiennes sont par là? Quelle est la situation économique? Qui sont en réalité les raisons qui expliquent ce qui est en train de se passer? Certains l'ont fait. Je ne pense pas que ça s'est fait vraiment la une des grands médias d'information. Peu de gens sont allés voir sur place, peu de reportages sont faits. Alors, crise de l'économie des médias qui fait qu'on ne paye plus ce genre de reportage, crise de l'attention des citoyens qui ne s'intéressent pas vraiment à ça. On a effectivement un bouleversement de société où on s'aperçoit qu'on veut être au courant des choses. Je crois que c'est un point important, on y reviendra peut-être. Le citoyen pense qu'il faut qu'il soit au courant de ce qui se passe, c'est-à-dire ça, c'est l'équivalent, disons, d'un robinet d'information qui va vous mettre au courant très rapidement que machin a été enlevé, qu'une bombe a explosé, que tel homme politique est mis en cause dans telle affaire, que telle banque a eu... Alors, sur la crise économique, on a quand même fait pas mal d'efforts pour essayer d'expliquer et de comprendre d'abord. C'est quand même le premier élément. On n'est pas sûr tous d'avoir compris. Mais connaître ces titres, disons, c'est les titres de l'actualité, pour pouvoir en parler le soir à la maison, au bureau avec les copains ou au bistrot quand on y va. Mais en gros, savoir plus n'est pas vraiment une demande très importante. Alors, c'est un propos qui a l'air un peu méprisant. D'abord, il ne l'est pas parce que c'est un libre choix. D'autre part, les mêmes personnes s'intéressent à des choses parfois très pointues, sur des domaines très limités, mais qui font moins société, disons, pour reprendre une expression convenue. Des sujets qui font moins société, qui sont du niveau de la passion personnelle, de l'intérêt personnel. Les mêmes personnes seront exigeantes si elles lisent quelque chose. Donc là, la chose est assez contradictoire, parce que je disais que le niveau de formation des citoyens a plutôt tendance à être plus élevé qu'il n'y a 50 ans, de l'ensemble des citoyens, j'entends. Et quand ils lisent quelque chose qui leur semble bricolé à peu près, ils sont assez furieux. Donc il y a une espèce de dialectique du désenchantement des citoyens pour l'actualité approfondie, avec l'appauvrissement de cette actualité qui leur est fournie. Mais il y a effectivement une transformation des sociétés. Dans le livre, j'en parle. C'est un vaste sujet en soi.
Alors justement, Internet transforme aussi le comportement du lecteur, puisque Internet, vous dites qu'il y a un changement des cerveaux, on peut le dire, puisque le cerveau ne réagit différemment à partir du moment où il a un journal physique entre les mains et à partir du moment où il est sur Internet. Sur Internet, ce changement s'opère par le fait qu'on veuille accéder à une information le plus rapidement possible et il faut que cette information soit la plus courte possible.
Alors, Internet, c'est une chose étrange parce que c'est en même temps un véhicule extrêmement riche si on veut vraiment chercher, prendre du temps pour trouver énormément d'informations, de connaissances, etc. Donc il faut pas démoniser Internet et c'est vraiment pas mon propos. C'est un fait d'abord. Il y a le soleil depuis très longtemps, puis maintenant il y a Internet et puis il y a ce système de communication et je pense appeler, même s'il doit se transformer, d'appeler à durer très longtemps, du moins quelques générations. Donc il y a une énorme richesse. Alors, c'est vrai que par ailleurs, la lecture sur écran et la lecture digitale rapide transforment notre rapport au savoir, à la connaissance, à l'apprentissage. La lecture d'un livre, prenons simplement ça, la lecture d'un livre, est la chose écrite d'abord, la chose imprimée a à voir avec le développement de nos sociétés depuis le 15e, 16e siècle. Ce n'est pas seulement parce que les Bibles se sont diffusées grâce à l'imprimerie, mais ce n'est pas négligeable déjà, mais la manière même d'accumuler la connaissance, de la diffuser, de la faire connaître massivement, parce qu'à nouveau, je parle de masse, parce qu'on a vraiment eu une culture de masse, le support papier imprimé a à voir avec le mode d'apprentissage que les hommes ont eu à travers les siècles. Maintenant, donc sur l'écran, il est clair qu'on a un autre mode d'apprentissage, un autre rapport. Alors en plus, l'écran Internet, ce n'est pas seulement de la chose écrite, c'est de l'image, c'est de l'animation, c'est du son, c'est énormément de choses. C'est effectivement un média un peu un méta-média global, englobant tout ce qui existe précédemment. Donc, on constate, les études qui sont faites, c'est que premièrement, on lit très peu de longs textes sur Internet. J'évoquais, je reviens au livre, par exemple, l'usage du livre via Internet. Pour quelqu'un qui fait une recherche, ça peut être très utile parce que vous n'avez pas besoin de lire un livre. Vous allez par mots-clés, c'est une technique qui se développe, qui n'est pas encore tout à fait, pas très confortable pour l'instant, mais c'est une question de très peu de temps pour que ça devienne vraiment efficace. Vous irez chercher les occurrences dont vous avez besoin et tout le reste, vous pouvez l'ignorer. Mais c'est aussi en rapport à la connaissance qui devient très bizarre parce qu'un livre est en général, s'il n'est pas trop mauvais, c'est, avec des guillemets éventuellement, une œuvre. C'est-à-dire qu'il y a un début, une fin, un milieu, il y a une cohérence. Lorsque, et en particulier les grands romans, si on commence à consommer les romans par petits morceaux, ça risque de donner un rapport à la littérature assez étrange. Mais ça se produit déjà. Ça se produit déjà. Donc on a quelque chose qui est en train... Internet, effectivement, est une technique qui permet cette transformation. Alors certains le glorifient, d'autres s'en effraient. Bon, c'est comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait raison de le glorifier. J'y reviendrai peut-être.
Il y a une société dont on n'a pas parlé, et pourtant qui domine par sa présence, c'est Google. À la lumière de ce que vous venez de dire, est-ce que la culture ne va pas se résumer aux 10 ou aux 20 premiers résultats de Google après une recherche ?
C'est un peu ce qui se passe. Bon, on n'est pas obligé de rester aux 20. Google vous répondra, vous n'êtes pas obligé de rester aux 10 ou 20 premières c'est réponses. Pas, oui. C'est votre choix. Sauf qu'il y a d'abord une chose très simple, plus large, c'est que le temps disponible, c'est 24 heures par jour. Et Internet ou pas Internet, ça reste 24 heures par jour. Et ce temps disponible, vous arbitrez l'usage que vous en faites. Donc, les recherches que vous faites se feront, le temps que vous consacrez à chercher une chose, à la lire, etc., est arbitré par cette possibilité. Comme vous avez de plus en plus de sollicitations, je parlais des nouvelles générations qui s'intéressent à la musique de manière passionnante et passionnée très souvent, qui connaissent énormément de choses dans ce domaine, qui ont énormément de nouvelles raisons de consacrer leur temps à autre chose qu'à la lecture traditionnelle, ils arbitrent. Donc, s'ils passent moins de temps à lire, c'est très lié à ça. Alors, Google apparaît comme un monstre. Et effectivement, ça pose un vrai problème parce qu'il y a une position dominante, d'abus de position dominante qui devrait poser problème aux régulateurs. On nous parle tout le temps de régulation, mais là, Internet est pour l'instant un champ où il y a très peu de régulation en réalité, où un peu tout est permis, à l'exception de quelques petits événements très choquants, mais enfin, en gros, tout est possible. Et Google a assuré, s'est construit une position de domination qui me semble tout à fait excessive, qui probablement ne durera pas, cela dit, parce que il y aura d'autres moteurs de recherche, ce sera difficile, ça va être difficile. Les moteurs de recherche de texte, ça va être extrêmement difficile parce que la position acquise ne peut pas être tellement remise en cause. Mais par exemple, les vidéos qui pullulent sur Internet vont faire l'objet, c'est évident, dans très peu de temps, de l'apparition de bons moteurs de recherche pour l'usage des vidéos. Donc Google perdra une partie de sa domination, y compris de son contrôle du marché publicitaire, parce qu'on revient encore à la façon dont Google actuellement draine une part tellement importante du marché publicitaire qu'en effet, il y a domination et mise en cause de la survie des autres. Mais il faut à la fois bien mettre en garde contre ce que signifie Google et ce fait que derrière les discours qui ont accompagné Internet, où on nous a dit ce sont de nouveaux champs de liberté, les individus peuvent tous s'exprimer, c'est formidable, ça met en contact tout le monde. Enfin, c'est la démocratie universelle qui est en train de se réaliser. Derrière ce discours, il y a eu en réalité la construction de nouveaux monopoles. Et tout ça de manière pratiquement inaperçu. Google a d'ailleurs un discours extraordinaire, à la fois inquiétant parce que flirtant avec des visions du post-humain qui m'ont laissé quand j'ai découvert en faisant ce livre ce qu'ils racontent totalement pantois, mais je crois qu'ils sont très sérieux quand ils le disent, mais en même temps, toujours ils sont du côté du bien, puisque leur slogan c'est « Don't be evil », faut pas faire le mal, quoi. En gros, faut pas être le méchant. Ils veulent pas faire le mal, n'arrêtent-ils pas de nous dire, ils sont au service de l'humanité pour mettre à la disposition de l'humanité de plus en plus de connaissances. Mais en attendant, ils construisent la plus énorme régie publicitaire que nous ayons connue depuis la naissance de la publicité. Donc, même si c'est pour faire le bien, c'est quand même quelque chose d'inquiétant parce qu'une démocratie qui n'a plus de contrôle du tout est une drôle de démocratie. C'est un peu ce qui est en train de se passer.
Mais est-ce qu'on ne se dirige pas, au fond, vers un comportement de l'utilisateur, du lecteur qui serait double? D'un côté, il accède à une information qui est, nous n'avons pas parlé de la presse gratuite, mais au fond qui se résumerait à ce qui est dans la presse gratuite, à savoir une information qui vient essentiellement des dépêches d'agence, qui sont plus ou moins retravaillées, mais de manière très superficielle. Et d'un autre côté, ce même utilisateur qui s'intéresse, parce qu'il a des centres d'intérêt qui sont multiples, vous parliez tout à l'heure de la musique, qui là, ferait les beaux jours et constituerait un avenir malgré tout pour une presse plus spécialisée.
Alors, je reviens à mon point de départ, c'est quelles vont être les conditions de production d'une information de qualité de masse. Une presse plus spécialisée, évidemment, ce n'est pas une information, même si c'est une information de qualité, ce n'est pas une information de qualité de masse. C'est en effet une des réponses qui semble se dessiner à la situation de crise, de chaos et révolutionnaire que nous sommes en train de vivre. Puisque les modèles classiques de cette production d'informations ne fonctionnent plus, un des contre-modèles, les nouveaux modèles qui pourraient être mis en place, est une information que je qualifie à deux vitesses. Une information. Alors, vous avez une lecture qui a été plus optimiste que ce que je vais dire, mais j'y reviendrai. Une information, pour moi, qui risque d'être l'information gratuite, c'est-à-dire le minimum basique, les titres que j'évoquais par ailleurs, les titres d'information pour tout le monde, qui seront gratuitement à la disposition de tout le monde. Et puis l'approfondissement, parce qu'il est nécessaire, malgré tout, pour un certain nombre d'acteurs de nos sociétés, de connaître vraiment ce qui se passe. Donc d'avoir une bonne information, parce qu'un homme politique, un responsable d'entreprise, un citoyen qui a des responsabilités quelque part, a besoin d'informations pour prendre ses décisions. Sinon, il est aveugle et sourd, il va aller se fracasser contre les murs qui sont autour de lui et qu'il ne peut pas voir. Donc, il va vouloir cette information et il va probablement la payer beaucoup plus cher qu'on la paye aujourd'hui. C'est déjà le cas de la presse économique et financière, surtout financière, puisqu'elle apporte une vraie plus-value que cette plus-value même se traduit par des plus-values quand les marchés ne s'effondrent pas. Ça permet de limiter les dégâts quand les marchés s'effondrent. Donc ça permet de gagner ou de ne pas perdre de l'argent. Donc on est prêt à payer pour. C'est un instrument avec une forte plus-value. Demain, les mêmes acteurs de cette vie en société demanderont, et c'est déjà le cas, je vais vous donner un exemple, d'avoir aussi de l'information qu'on dit généraliste. Mais si vous voulez investir en Chine, vous avez intérêt à savoir quelle est la situation sociale en Chine. Qu'est-ce qu'on dit autour du parti? Alors, il y a quelques experts qui pourront vous donner des éclairages, mais le travail structurant au jour le jour, heure par heure, des journalistes, ce n'est pas l'expert, le sociologue, l'historien qui peut le fournir. Il va fournir un champ plus large, mais le responsable qui a besoin de prendre ses décisions ne peut pas s'en contenter. Donc, nous avons par exemple le système de Bloomberg, qui est une agence d'information financière essentiellement, propriété de l'actuel maire de New York d'ailleurs, un milliardaire, qui a fait fortune grâce à cette agence Bloomberg, qui fait référence dans les milieux de la finance, qui a quelques dizaines de milliers d'abonnés. Ils ont une information gratuite, minimale, qui est financée sur le système traditionnel de la publicité, qui, je pense, gagne un petit peu d'argent parce que c'est un secteur de niche, justement. Mais malgré tout, ils ont des chaînes de télévision, vous pouvez les voir sur Internet, etc. Et puis, ils ont, pour quelques dizaines de milliers de personnes, à travers, ou plutôt d'entreprises, très souvent, à travers la planète, un service particulier avec des informations économique et financière très pointue, mais avec aussi des informations de type information générale à travers le monde. Ils ont des bureaux dans le monde entier. Mais ça coûte très, très cher et pour un nombre très limité de gens. Donc ça, c'est vraiment l'information à deux vitesses. Vous voyez un monde qui se construit avec cette information de très haute qualité, bien meilleure probablement d'ailleurs que l'information payante que nous avons maintenant, parce que ce sont des experts de très haut niveau, des journalistes experts de très haut niveau qui écrivent pour Bloomberg, pour un public qui va payer. En général, ce sont des entreprises parce que les individus eux-mêmes, à part quelques personnes très riches, ont du mal à payer aussi cher. Mais on peut voir une réorganisation de ce type-là. Peut-être que demain, en effet, pour rejoindre un peu ce que vous disiez, les gens qui s'intéressent, on n'aura pas... Dans le livre, je dis ça va faire une information riche pour les riches et une information pauvre pour les pauvres. Alors, c'est un peu une provocation et c'est discutable parce qu'on n'a pas besoin d'être riche si on veut absolument avoir de l'information sur quelque chose. Demain, on acceptera probablement de payer. Le problème, c'est que c'est demain. Pour l'instant, les consommateurs, lecteurs, auditeurs, téléspectateurs considèrent que l'information est gratuite. Donc, pour faire payer, c'est extrêmement difficile. Il faudra, je dirais, d'une certaine manière, avoir touché le fond. Il faudra que le système de production traditionnelle de l'information soit complètement anémié, sinon réduit à néant, pour que, devant le besoin de s'informer sur tel ou tel sujet, on accepte de payer.
Alors, comment précisément survivre? Comment renaître au-delà donc de cette information à deux vitesses? C'est ce que nous allons voir, Bernard Poulet, dans un instant.
Découvrez les lettres que Marcel Proust, préparant ses romans, écrivait à Émile Malle de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ces missives laissent penser que Proust s'est inspiré de la connaissance d'Émile Malle sur les édifices religieux et l'histoire de l'art, en particulier pour rédiger du côté de chez Swann. Ces lettres confirment l'extrême minutie de Proust jusqu'au moindre détail.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à la fin des journaux. La fin des journaux, tel est le titre de votre ouvrage, Bernard Poulet. Vous êtes rédacteur en chef à l'Expansion et vous venez de publier donc cet ouvrage dans la collection Le Débat chez Gallimard. Alors je souhaiterais au cours de cette dernière partie voir, essayer de comprendre ce qu'il va se passer à l'avenir. Parce qu'au fond, dans votre ouvrage, on prend votre ouvrage, on est un peu pessimiste, on vous suit dans votre pessimisme, même s'il s'agit d'une réalité, on insiste sur ce point. On a même peur, on se dit « que va-t-il se passer ?» On pense aux logiques démocratiques, etc. Et puis, finalement, votre dernier chapitre et votre conclusion entrevoient différentes pistes, multiples, sur cette renaissance et sur l'avenir. Alors, vous en avez évoqué une, qu'est cette information à deux vitesses. Comment envisager, comment voir d'autres solutions et notamment comment régler cette question de modèle publicitaire, puisqu'on sait que ce qu'on paye en pub dans un journal est beaucoup plus cher que ce qu'on paye aujourd'hui sur Internet.
Oui, premier point, en effet, qu'il est nécessaire de préciser que les éditeurs de journaux viennent enfin de comprendre, je crois maintenant, mais il y a quelques mois, ils avaient encore du mal à l'admettre, ils ne vont pas récupérer sur Internet ce qu'ils perdent sur le papier, tout simplement parce que, ou sur les ondes, hein, tout simplement parce que la publicité, à partir du moment où elle est, d'abord à partir du moment où elle est sur Internet, elle est payée beaucoup moins cher, je vais vous expliquer, que sur le papier. Et justement, elle est payée beaucoup moins cher parce qu'il y a une multiplication de ce que les publicitaires appellent les supports, c'est-à-dire les endroits où ils peuvent faire passer leur message. Vous pouvez prendre un site commercial, et même Google est un moteur de recherche, ce n'est pas un site d'information, qui emporte une partie des budgets publicitaires. Et en emportant, ils se sont multipliés un site de rencontre, des sites qu'on appelle sociaux, ça ne marche pas pour tous, mais ça marche pour certains, des sites de voyage, des sites de SNCF.com marchent très très bien, a de la publicité, prend un parti, mais à ma connaissance, SNCF.com n'est quand même pas ce qu'on peut appeler un site d'information. À part pour les horaires de train. Enfin, ça ne vous raconte pas ce qui se passe au Bangladesh en ce moment, ni à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas son objet. Donc, la multiplication amène une baisse tendancielle irréversible aussi du prix de l'annonce publicitaire. Donc, on peut dire, et il faut le dire, le modèle publicitaire ne fonctionne pas. Il peut être un complément, il peut faire partie d'une production d'information, mais il ne fonctionne pas pour alimenter la production d'information. Au passage, je veux dire quand même une chose que j'ai un peu oubliée. Moi, je parle de la fin des journaux, en effet, mais à la limite, ça m'est égal. Non pas personnellement, parce que je suis journaliste du papier, j'adore ça et je dévore plein de journaux, mais ça m'est égal si on continue à produire de la bonne information par un autre canal. Ça m'est totalement indifférent, ou presque totalement indifférent, que ce soit sur du papier ou sur autre chose. On a évoqué le poids du papier dans la culture, mais si on a cette information, ça sera d'abord l'essentiel. Or, c'est la production d'information qui est en cause. On n'a pas les moyens de financer la bonne information de masse. Donc, chercher d'autres modèles. Alors, actuellement, les éditeurs qui ont compris qu'ils ne rattraperaient pas par Internet sont en train d'essayer, et pourquoi pas, de diversifier leur métier, pour ainsi dire. Ils vont vendre autre chose. Alors, ça a commencé, comme tout le monde l'a vu, par les CD, les DVD, les encyclopédies.
Les suppléments du week-end.
Les suppléments, ça, c'est encore un autre problème, déjà, le supplément. Mais tous les produits, ce dont je parle, surtout, c'est les plus produits, on dit dans le jargon. C'est-à-dire, vous avez votre premier produit qui est votre journal et vous avez avec un plus produit qui est alors des produits au départ culturels parce qu'on se dit c'est notre métier et puis c'est des voyages et puis après certains, c'est pas tellement le cas en France actuellement, mais n'hésite pas à vendre des réfrigérateurs, des vélomoteurs. Donc créer d'autres budgets. Juste un exemple, Washington Post, qui est un grand journal actuellement, quasiment la moitié de son chiffre d'affaires provient d'une activité qui n'a rien à voir avec le journalisme, mais avec la formation, une entreprise qui lui appartient et qui lui permet, en réalité, de boucher les trous du journal. Mais ça pose un problème. Est-ce que c'est un modèle durable ?
Mais est-ce que justement, nous ne sommes pas sur le concept de marque, qui serait un concept positif pour le coup ? C'est Boé, donc à la tête de Prisma, qui parlait de la galaxie Géo. Géo qui vend à la fois des DVD, comme vous le disiez, mais également des guides de voyage. Bref, il y a toute une galaxie Géo dont le support initial est un magazine qui fonctionne très bien.
Ça peut être, dans certains cas, un modèle. Je m'interroge pour savoir si c'est un modèle durable, dans la mesure où, en stricte raison économique, si on se fie aux éléments d'un fonctionnement de marché normal, lorsque vous avez un certain nombre d'entreprises sous une marque, même sous la même marque, en restant très prudent sur la valeur de la marque, je pense qu'elle est surévaluée par beaucoup d'éditeurs. Il y a des marques qui sont très connues dans ma génération, qui sont assez largement ignorées par les jeunes générations. Il faut quand même tenir compte. Je ne parle pas de Géo, mais vous pouvez voir ce que j'imagine. Donc, autour d'une marque, on va fédérer un certain nombre d'activités. Mais si parmi ces activités, vous en avez une qui est largement déficitaire, qui s'appelle le journal ou la radio, vous croyez que les propriétaires, en termes de marché, sans parler des actionnaires quand il s'agit de groupes cotés en bourse. Et les groupes médias sont de plus en plus souvent avec des actionnaires, ont des actionnaires qui exigent un retour sur investissement moins important que peut-être il n'y a pas les 15% d'il y a 3-4 ans, mais même les 5%. Si ce résultat, comme on dit vulgairement dans le jargon, est plombé par une activité qui s'appelle la production d'informations, eh ben, on risque de la fermer. Vous savez, quand vous avez un groupe de 15 usines, il y en a 14 qui gagnent de l'argent et la 15e n'en gagne, en perd ou n'en gagne pas assez aux yeux des propriétaires et actionnaires, et bien en général, on dit qu'elle est restructurée, c'est-à-dire qu'elle est fermée. Donc, c'est un modèle qui est quand même très dangereux de dépendre. On a toujours dit, j'ai toujours pensé, que l'indépendance d'un journal et sa survie dépendaient de sa bonne santé économique et financière. Je n'avais pas pensé jusqu'à présent que ça dépendait d'autres activités qui venaient boucher les trous. Il y a un moment où ça s'épuise, ce modèle. Et Géo est un bon exemple d'un modèle intégré qui peut offrir un certain nombre d'activités. Est-ce que tous les journaux d'information généralistes peuvent se permettre de faire cela ? J'en doute fort.
Est-ce qu'il ne faut pas s'adapter au comportement d'un utilisateur qui, au fond, picore à droite et à gauche de l'information grâce précisément à Internet? Est-ce qu'on peut envisager une déstructuration des journaux? Nous enregistrons cette émission le 15 avril et ce matin dans le Figaro Économie, ou hier, je crois dans le Figaro Économie, Agnès Touraine, donc, qui vient de sortir de Libération, disait qu'il fallait, pourquoi ne pas imaginer, je la cite, un journal papier avec des rubriques et une pagination fluctuant au gré de l'actualité, précisément pour s'adapter à ce consommateur qui est de plus en plus exigeant parce qu'il est en face de lui, ou il a avec lui cet outil Internet qui lui permet de picorer, alors que le journal reste un élément structuré théoriquement.
Deux points. Agnès Touraine a raison, au moins la démarche est louable, et je ne peux que l'applaudir, c'est-à-dire essayer d'imaginer autre chose en dehors des cadres habituels dans lesquels on reste enfermé beaucoup trop souvent. Aux États-Unis déjà, puisque les choses vont plus vite là-bas, des journaux ont décidé de ne pas paraître tous les jours. D'autres ont trouvé d'autres modèles. On a évoqué Christian Science Monitor, qui est un hebdomadaire, qui est passé de quotidien à hebdomadaire avec une production quotidienne en ligne, uniquement en ligne. Bon, il y a un certain nombre de choses à essayer, en effet, et s'adapter à la demande. Mais attention à une chose, il faudra continuer à se poser la question de comment on produit cette information de qualité. Parce que vous dites, pourquoi ne, puisqu'on peut picorer sur Internet, mais pour l'instant, on picore une information qui est produite essentiellement par des grands groupes d'informations, disons essentiellement des grands journaux. La rédaction du New York Times, c'est 1200 journalistes, bons journalistes. C'est eux qui alimentent une bonne partie de ce que vous retrouvez sur Internet sous forme de commentaires, sous forme de discussions, sous forme d'informations purement et simplement reprises par les uns ou les autres. Le jour où ces 1200 journalistes ne produisent plus cette information, qu'est-ce que vous allez picorer ? Il ne va pas vous rester grand-chose à picorer, il va vous rester à picorer les commentaires des uns et des autres sur une actualité qu'ils connaissent de moins en moins bien. Parce que pour l'instant, vous avez déjà sur Internet énormément de commentaires, trop à mon goût, mais pourquoi pas. Mais c'est des commentaires à partir d'une information produite par d'autres. Si le jour où ces autres ne produisent plus, vous allez avoir du commentaire de commentaire, ce qui crée un univers quand même assez insatisfaisant.
Alors précisément, vous envisagez dans le futur la redéfinition, pourquoi pas, du rôle des agences d'information?
Oui, je me demande, bon, ce sont des pistes qui ne correspondent pas à la logique des entreprises de presse, mais qui correspondent à une logique plus citoyenne. Je me dis, puisque les règles normales du marché, si l'on s'en tient aux règles normales du marché, on n'arrivera pas à terme à produire de l'information de qualité de masse. Il faut trouver d'autres moyens qui ne correspondent pas obligatoirement uniquement aux règles du marché. Je refais un petit point en arrière. La diversification à laquelle se prête un certain nombre de groupes est peut-être un bon moyen pour traverser la période chaotique des quelques années qui sont devant nous, où tout va se déliter et tout va peut-être se transformer, se recomposer. Donc, en attendant de savoir exactement comment il faut faire, pourquoi, bon, on va trouver des petits moyens pour trouver des moyens pour faire survivre cela, parce qu'on en a besoin. Mais il est possible aussi qu'on puisse en effet utiliser les agences de presse. Les agences de presse jouent un rôle de production d'informations. C'est quand même à partir des agences de presse que 80% peut-être ou 60% selon les cas de l'information que nous consommons nous arrive. Donc alimentons la possibilité d'avoir des agences de presse à la fois indépendantes, c'est une présence, ça, c'est pas facile obligatoirement à obtenir. Dans les démocraties, ça se passe quand même pas trop mal en général. L'agence France Presse reste indépendante, elle agace les pouvoirs politiques, même si les pouvoirs politiques essayent sans arrêt de la contrôler. J'ai l'impression que pour l'essentiel, elle fait son travail de manière très indépendante. La BBC, qui est alors pas seulement une agence, mais un grand service public d'information, est une des meilleures sources d'information encore depuis longtemps et encore probablement pour pas mal de temps dans le monde, etc. On peut avoir, je vais plus loin même que l'agence de presse, j'évoque la possibilité d'un service public de l'information comme un service public de la santé ou de l'éducation, puisque si c'est nécessaire à la survie de nos collectivités, pourquoi ne pas avoir ça? Mais l'agence de presse jouera sûrement un rôle très important. Encore aux États-Unis, où on a pris conscience de l'enjeu démocratique de cette disparition de la production d'information, vous avez des mécènes qui ont cessé de donner leur argent à des musées ou à des salles de concert et qui ont décidé qu'ils allaient la donner à des groupes de journalistes qui forment d'une certaine manière de nouvelles agences, notamment d'enquête, investigation en anglais. Et donc une agence d'enquête est financée aujourd'hui avec de très bons journalistes par une donation, un fonds donné par des mécènes. C'est un modèle. En France, je ne pense pas que ça fonctionnera. On sera obligé probablement de passer par la puissance publique plus facilement que par les mécènes qui ne sont pas très nombreux.
Alors Bernard Poulet, nous arrivons au terme de cette émission. Je voudrais peut-être vous poser une dernière question. On sort d'un business model. Les journalistes ont évolué, hein, vous le montrez vraiment dans votre ouvrage. Mais malgré tout, il y a un futur. Il y aura d'autres business models. Il y a d'autres moyens de faire son travail. Il y aura un changement, oui, du statut du journaliste.
Il y aura de toute façon déjà au départ un besoin d'information. Ça ne disparaîtra pas, quelle que soit la forme et la demande d'information et les sujets. Il y aura une demande. Deuxièmement, il y aura besoin de professionnels, d'une manière ou d'une autre, pour produire cette information. Appelons-les des journalistes, c'est comme ça que ça s'appelle depuis longtemps. Donc maintenant, probablement, devront-ils faire leur travail différemment. Ça, je pense en effet que nous avons notamment devant nous la disparition de ce qu'on peut appeler la classe moyenne des journalistes, c'est-à-dire le journaliste ni trop mauvais ni trop bon, qui pouvait, dans une rédaction de 1200 personnes, trouver sa place tranquillement sans faire trop de bruit, et qui vivait bien, qui pouvait faire son travail dans d'excellentes conditions. Ce journaliste-là, je crois, va disparaître, est en train de disparaître, au profit, si l'on peut dire, d'une classe de journalistes petites mains, ouvriers spécialisés de l'information, mal payés, faisant ce que vous évoquiez, tous les travaux à la fois, de la radio, de l'écrit, de l'image, des photos, des commentaires, des blogs, des brèves, etc., etc., etc. Et donc, qui n'a évidemment pas le temps d'approfondir, mais on ne lui demande pas, qui sera payé mal, ce qui est déjà le cas. Dans les sites d'information, les journalistes, quand ils sont payés, sont très mal payés. Et à l'opposé, probablement, va se renforcer et se développer une couche de journalistes hyper experts ou hyper talentueux, enfin, qui devront apporter une plus-value suffisamment importante pour avoir une valeur de marché, quelle qu'elle soit, quelles qu'en soient les formes, ce que nous avons évoqué. Mais là, il y aura une demande. On acceptera un jour prochain, je pense que ça ne me prendra pas des siècles, ça. On acceptera de payer pour de l'information, mais pour de l'information de très bonne qualité. Parce que vous n'allez pas payer pour l'information médiocre, parce qu'une des vertus d'Internet, c'est que l'information médiocre, vous l'avez en masse et même bien au-delà de tout ce que vous souhaitez. Donc vous n'allez jamais payer pour ça. En revanche, si vous savez que vous pouvez avoir une information avec une très forte plus-value, même si cette plus-value s'appelle le talent, d'ailleurs tout simplement, parfois, l'écriture, la manière de dire, de raconter, ou le plus souvent l'expertise et la capacité de comprendre, de faire comprendre et de décortiquer les problèmes, ben ça, là, vous pouvez accepter de payer.
Eh bien, c'est sur ce sentiment que nous allons laisser nos auditeurs. Merci beaucoup, Bernard Poulet, d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle les références de votre ouvrage. Donc, La fin des journaux et l'avenir de l'information, un ouvrage paru chez Gallimard, et le dernier numéro de l'Expansion sur le classement des grandes écoles, le numéro du mois d'avril. Merci beaucoup et restez à l'écoute de Canal Académie pour une prochaine émission. À très bientôt.